Il est 8h44 à Paris. Tout de suite, un mot des titres de l'actualité internationale.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
On l'apprend ce mercredi, la Chine a nommé un nouveau patron pour les négociations sur le commerce en pleine escalade avec les États-Unis sur les taxes douanières. Et selon la Maison-Blanche, la balle est désormais dans le camp chinois. Donald Trump a de nouveau clairement affirmé qu'il était ouvert à un accord avec la Chine. Mais c'est la Chine qui a besoin d'un accord avec les États-Unis, a déclaré la présidence américaine dans le contexte de cette guerre commerciale en cours. 145% de droits de douane sont désormais en vigueur pour tout produit chinois importé aux États-Unis et Pékin a annoncé hier la suspension de toute réception sur son sol d'avions fabriqués par Boeing, plus gros exportateur américain. Un accord trouvé cette nuit après plus de 3 ans de négociations. Les pays membres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se sont mis d'accord sur un texte visant à mieux se préparer et lutter contre les futures pandémies, 5 ans après la pandémie de Covid-19. Une étape importante dans notre voyage commun vers un monde plus sûr, a déclaré le patron de l'OMS. Il est question notamment dans le texte de transfert de technologie d'un commun accord. Le texte sera examiné lors de l'Assemblée mondiale de l'organisation en mai prochain. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette nouvelle escalade entre Paris et Alger. On en parle tout de suite dans la revue de presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Et on le disait à la une, nouveau coup de froid entre Paris et Alger.
Oui, hier, relève le site Algérie 360, Paris a décidé d'expulser 12 diplomates algériens en poste sur son territoire en réponse à une mesure similaire prise par Alger quelques jours plus tôt. La tension monte d'un cran entre les deux capitales, mettant en péril le fragile processus de réchauffement engagé récemment. Cette réaction en chaîne, précise Algérie 360, trouve son origine dans l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien, un agent soupçonné d'être impliqué dans une affaire touchant un blogueur algérien, un opposant controversé, connu sous le pseudonyme d'Amir DZ, exilé dans l'Hexagone. À Alger, cette arrestation est perçue comme une violation flagrante des conventions diplomatiques. Autre mesure forte prise par Paris hier, le rappel de son ambassadeur. Cette décision est une première et cette crise est cette fois-ci partie pour durer, commente Le Matin d'Algérie, car il y a comme une rupture de confiance entre les deux chefs d'État.
Pour le quotidien gouvernemental, El Moudjahid, le responsable de cette affaire, c'est le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
Alger et Paris, rappelle le quotidien algérien, avaient repris langue après des mois de crise à la faveur de l'appel téléphonique du président français à son homologue Abdelmadjid Tebboune et la venue prompte de son ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ce réchauffement a fait long feu, soupire El Moudjahid. L'enthousiasme a vite été douché par un incident jugé gravissime par Alger, l'arrestation donc ostentatoire d'un agent consulaire algérien en exercice en France. Une arrestation bien évidemment effectuée sous les ordres de Bruno Retailleau et, prévient El Moudjahid, entre l'Algérie et la France, le rideau ne se lèvera pas tant que les barbouzeries de Bruno Retailleau ne seront pas annihilées.
Le site Algérie Patriotique s'interroge.
Comment l'Algérie va répondre à l'expulsion de ses agents diplomatiques? Va-t-elle rompre les livraisons de gaz et expulser le groupe pétrolier français Total Energy? Jusque-là, les autorités algériennes n'ont jamais lié les questions économiques aux différents politiques et diplomatiques, sauf dans le cas marocain. Jusqu'où iront les mesures de rétorsion de part et d'autre de la Méditerranée entre deux pays dont les relations en dents de scie n'ont jamais connu une crise aussi grave depuis l'indépendance de l'Algérie en 62.
D'ores et déjà, remarque le site Afrique.com, ce nouveau coup de froid a des conséquences très lourdes pour les entreprises françaises désireuses de développer le marché algérien.
Oui, et qui vont devoir attendre un peu plus pour profiter de la croissance de la première puissance économique d'Afrique du Nord. Le patronat français en pleurerait tellement les conséquences des rodomontades de Messi Retailleau coûtent cher à la France. Exemple, pointe Afrique.com, le patron du troisième groupe mondial de transport maritime, CMA-CGM, Rodolphe Saadé, qui a vu annuler sa rencontre avec le président Tebboune, qui devait avoir lieu aujourd'hui à Alger, et à l'issue de laquelle devait être annoncé un montant d'investissement colossaux en Algérie, de nature à faire des ports algériens une plateforme stratégique pour l'armateur français.
Entre la France et l'Algérie, la malédiction des détentes éphémère, constate pour sa part le monde africain.
Pourquoi donc ces oscillations permanentes entre les deux capitales? Pourquoi cette incapacité à stabiliser la relation? Un premier élément de réponse tient dans la nature multiforme de ce lien franco-algérien qui le rend comparable à nul autre, fruit d'une imbrication entre mémoire coloniale, héritage migratoire, passerelles économiques, intérêts stratégiques et convulsions identitaires de chaque côté. La connexion entre la France et l'Algérie est par essence compliquée à réguler. Mais, pointe encore le monde afrique, le véritable défi défi tient plutôt dans l'absence de synchronie entre les différents agendas politiques, stratégiques et judiciaires. Quand la France est prête au dialogue, l'Algérie est absorbée par d'autres impératifs et réciproquement. Et quand bien même les diplomates sont au diapason, les logiques partisanes de chaque pays poussent en sens contraire, sans compter les incidents sécuritaires ou encore les vicissitudes judiciaires qui précipitent les embardés. Enfin, analyse similaire pour Jeune Afrique qui constate qu'à chaque fois qu'un chapitre semble esquisser un épilogue heureux, le caractère versatile et volatile de la relation entre la France et l'Algérie relance la machine à friction.
Frédéric Couteau pour cette revue des journaux africains. Vous revenez dans une demi-heure pour nous parler de la presse internationale à la une. Harvard fait de la résistance.
Oui, la prestigieuse université américaine dit non à Trump et la presse libérale outre-Atlantique, nous le verrons, s'en félicite.
A tout à l'heure, rendez-vous juste après le journal de 9h. L'escalade à nouveau entre l'Algérie et la France, on en parlait et c'est une surprise alors que l'heure était plutôt à l'apaisement ces dernières semaines entre les deux pays. Du jamais vu depuis l'indépendance de l'Algérie, nous dit ce matin notre invité, le militant franco-algérien à la tête en France du collectif Algérie droit devant, l'IS Djebaïli. Il répond aux questions de Christophe Babouvier.
L'IS Djebaïli, bonjour.
Bonjour.
Comment réagissez-vous à cette nouvelle escalade entre l'Algérie et la France ?
C'est regrettable, c'est incompréhensible. Les relations franco-algériennes s'acheminaient vers une détente, vers un dégel. Et puis, subitement, les relations se crispent davantage. Manifestement, on a l'impression que les deux présidents, M. Macron et M. Tebboune, malgré leurs relations personnelles, sont de bonnes relations. Mais ils n'arrivent pas à se parler comme naguère. Bouteflika avec M. Chirac. Là, c'est quelque chose d'inédit, du jamais vu depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis 1960. Le rappel des ambassadeurs côté algérien et côté français, l'expulsion de 12 agents consulaires et diplomatiques français et algériens ouvre la voie vers la rupture des relations diplomatiques.
Vous craignez une rupture, hein ?
Je crains cette rupture entre la France et l'Algérie parce que c'est inédit depuis 62, une fermeture des deux côtés. Les ripostes s'enferment de part et d'autre. Voilà, espérons de jours meilleurs pour les relations franco-algériennes. Après tout, ce sont des relations historiques, profondes, où s'entremêlent les relations de famille, les relations de culture, du sang, ainsi de suite. Voilà. En tout cas, en tant que militant, en tant que franco-algérien aussi, l'Algérie, c'est mon pays de naissance et la France aussi, c'est mon pays d'adoption. Et je me sens aussi bien qu'algérien que français. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle de tous mes voeux pour le dégel de ces relations et revenir, tant soit peu, à la sagesse.
Alors, il y a 8 jours après le coup de fil Tebboune-Macron et la visite à Alger du ministre Barrot, tout le monde pensait que les deux pays allaient reprendre le dialogue, la coopération. Et puis, depuis ce week-end, patatras, l'Algérie décide d'expulser 12 agents français et la France réplique, comme vous le savez. Comment expliquez-vous ce nouveau raidissement ?
Moi, je rappelle, en tant que militant des droits humains, en tant que militant pour la démocratie, pour l'établissement d'un état de droit et de citoyenneté dans mon pays, dans un état de droit, la justice, elle est indépendante. Honnêtement, je ne sais pas les détails de cet enlèvement de l'influenceur algérien
Amir Dezed, oui, et donc de la mise en examen et de l'arrestation vendredi dernier par la justice française de 3 Algériens de France, dont un membre du consulat d'Algérie à Créteil, près de Paris.
Oui, mais ces 3 personnes qui sont impliquées dans l'enlèvement, personnellement, en tant que citoyen, j'appelle à l'indépendance de la justice, parce que nous militons pour une justice indépendante dans notre pays d'origine, en Algérie. Laissons la justice faire son travail. La justice en France est une justice indépendante. Je ne pense guère qu'elle soit soumise, assujettie à l'exécutif, mais j'appelle aussi bien l'Algérie et la France de retrouver les chemins de la sagesse pour renouer un dialogue égal à égal pour le bien-être de l'Algérie, de la France et des deux peuples algériens et français.
Donc vous pensez qu'après l'arrestation de cet agent algérien du consulat de Créteil, Alger n'était pas obligé d'expulser 12 agents français d'Algérie ?
C'est une décision qui était lourde de conséquences suite à une décision de justice. Et c'est un yo-yo diplomatique, on retombe dans les travers alors que nous étions tous heureux que les relations franco-algériennes repartiraient de plus belle.
Est-ce que le fond du problème, l'IS Djebaïli, ce n'est pas la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France. C'était il y a 9 mois.
Oui, chaque pays souverain dans la prise de sa décision. Maintenant, est-ce que la France aurait pu garder sa neutralité, rester neutre? Est-ce que cette reconnaissance, elle est passée par le Parlement? On se demande, moi je me demande en tant que citoyen, sachant les conséquences de cette reconnaissance. La France, c'est un grand pays qui a toujours su garder une certaine neutralité. Monsieur Macron aurait pu garder cette neutralité vis-à-vis de cette question du Sahara occidental. C'est une question qui dépend de l'ONU. C'est une question de décolonisation, elle dépend de l'ONU. D'ailleurs, entre les deux ministres des Affaires étrangères français, M. Barrot, et le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Attaf, il y avait un communiqué conjoint que la question du Sahara occidental, elle dépendait de l'ONU. Voilà.
Lies Djebaïli, je vous remercie.
Lies Djebaïli à la tête du collectif Algérie droit devant, il répondait à Christophe Boisbouvier, un entretien à retrouver sur notre site rfi.fr. Maman, on vous retrouve comme chaque matin juste avant 9h et aujourd'hui vous nous dites que d'après vous certains mots semblent avoir été spécialement créés pour les Gondouanais.
Oui, depuis l'aube des temps, dès que tu entends certains mots dans les conversations ou les débats à la télé ou dans la vie de tous les jours, tu sais tout de suite qu'on parle de toi, mon cher Gondouanais lambda. Palabre, brousse, pagne, world music, migrant, case, etc. C'est à toi tout ça et à personne d'autre. Il en est de même de ces mots qui nous préoccupent aujourd'hui en très très démocratique république, l'ethnie et son fils maudit, l'ethnicisme. Tu as vu, hein, cher ami, dès que j'ai dit ethnie, ethnicisme, ben toi-même tu as eu ce petit rictus qui veut dire, ça y est, c'est reparti, on va encore être les vedettes. Ethnie, comme ces autres mots que j'ai cités tantôt, ben c'est des marques déposées en notre nom, sans notre consentement. Hein. Tu te promènes dans la rue et dès que le mot ethnie retentit, ben tu sursautes et tu rentres la tête dans les épaules parce que tu sais que tous les regards seront tournés vers toi. L'ethnie, ben on sait ce que c'est. Hein. Mais alors, c'est quoi l'ethnicisme? On sait ce que les gens croient en savoir, c'est-à-dire tous ces clichés sur les gens du Gondwana maritime, qui sentent le poisson parce qu'ils ne vivent que de ça, ne mangent que ça, et donc toute leur région sent le poisson, et que c'est pour ça ben, qu'il ne faut pas les nommer à des postes de responsabilité dans les ministères parce que ça sentira le poisson partout. Ça sentira au Conseil des ministres, ça sentira aux conférences internationales, etc. Et que donc, c'est pour ça que les gens du Gondwana maritime, là, il faut les laisser faire des boulots comme vendeurs de poissons, vigiles, jardiniers, vendeurs, bref, que des métiers dehors, quoi. On connaît aussi les clichés sur les Gondouanais de la montagne, tu sais, ces clichés qui disent que ces gens-là aiment vraiment trop vivre, se marier entre eux, quoi. Ils n'aiment pas se mélanger aux autres parce qu'ils veulent garder l'argent pour eux seuls, parce que tout le monde sait qu'ils adorent l'argent et qu'ils ont acheté tout le pays et qu'on doit se méfier d'eux et que eux non plus, on ne doit pas les accepter dans le gouvernement parce que ce serait trop dangereux. Ils ont déjà acheté tout le pays. Ne parlons même pas des préjugés sur les Gondouanais de la forêt qui n'aiment rien d'autre que de mettre leurs enfants dans l'armée, la police, la gendarmerie, la douane, parce qu'ils aiment l'autorité, le pouvoir. Ils pensent que c'est toujours eux qui doivent avoir le pouvoir et que si c'est pas eux qui sont au pouvoir, c'est zéro, les autres sont nuls. Et je peux continuer comme ça sur tous les autres Gondouanais. Mais j'arrête là parce que je viens de me rendre compte que parce que pendant que je vous raconte ça là, ben on n'a pas parlé du bilan de président fondateur. La malgouvernance, pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de route, rien de rien après toutes ces décennies au pouvoir. Tiens, justement, c'est exactement ça la définition de l'ethnicisme dans le petit Gondouanais illustré. La technique du bouc émissaire. Pendant que tu pointes du doigt l'ethnie de ton voisin, ben tu oublies le bilan de président fondateur. Allez, à demain.
À demain, maman. RFI, vous restez avec nous dans 2 minutes. L'info et à la une, la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Nous serons à Pékin pour notre dossier dès le début du journal. Restez avec nous.
RFI, la sélection du mois.
Émilie Marche.
J'attendais pas à vivre un tel être selon deux, comme deux cœurs coupés en deux, cœurs coupés en deux, cœurs coupés en deux.
Tu crois vraiment qu'on va bosser jusqu'à ce qu'on soit cabossé?
Pat Kala et le Super Mojo.
On veut pas vieillir au boulot, mais mettre les pieds dans l'eau.
On va pas bosser.
Ah ouais.
RFI Musique.
On ne fait rien dans la vie.
L'Opinion et le Conseil français des investisseurs en Afrique organisent le 29 avril prochain le forum Investir en Afrique autour du thème l'entreprise, moteur d'une croissance durable. Un événement incontournable pour explorer les opportunités économiques et sociales du continent avec un focus sur la croissance durable. Plus d'informations et inscriptions sur le site de l'Opinion, rubrique événements, le 29 avril prochain, à Paris, en partenariat avec RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
la parentalité positive a le vent en poupe. Peut-on punir son enfant sans violence? Comment dire non avec bienveillance?
Demain,
à quoi ressemble le matin des gens qui se lèvent tôt? Est-ce un moment magique ou contraignant et éprouvant?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
À l'heure où des milliers de migrants tentent de franchir la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni, nous serons à Londres pour voir comment se passe l'insertion de celles et ceux qui obtiennent le statut de réfugiés. Et nous parlerons, avec la revue L'Histoire, des immigrés britanniques qui faisaient le chemin inverse au XIXe siècle, les Denteliers de Calais.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU, sur RFI.